CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « Tu es peut-être à terre aujourd'hui, mais demain, tu seras relevé ». Alléluia. Amen. Comme l'a dit Annabelle avant l'émission, on peut aussi être relevé aujourd'hui même.
Oui, moi j'ai la foi pour que les gens soient relevés aujourd'hui, pendant l'émission et après l'émission.
Amen. Ou demain.
Mais aujourd'hui surtout.
Après l'émission, ça peut être demain.
Demain, parce que c'est samedi, demain, non? Ou ça peut être dimanche?
Ça peut être dimanche aussi. Ça peut aussi. En tout cas, nous croyons que vous pouvez être relevé. Tu voulais dire quelque chose, Anne?
Non, j'ai dit, si on regarde l'émission un mercredi, ça sera pour mercredi.
C'est vrai qu'on peut regarder sur le replay, sur emctv.com. Donc aujourd'hui, on va vraiment... fortifier nos amis téléspectateurs qui passent par une épreuve. Et une épreuve, on sait à quel point ça peut vraiment nous mettre à terre. Et parfois, c'est une cumulation d'épreuves en plus. On a la maladie, des problèmes financiers, je sais pas, un divorce qui vient par-dessus. Bref, la catastrophe totale. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui nous arrivent. Et puis, on a vraiment littéralement l'impression d'être à terre, vraiment. En se disant, là, le diable, il est en train de me piétiner. Puis, j'ai même plus la force de me relever. Et on va voir aujourd'hui que, par la grâce de Dieu, on peut vraiment être relevé miraculeusement. Et à la fin de cette émission, en deuxième partie, nous aurons le témoignage d'Éric Dufour qui est venu raconter justement lui comment la maladie l'avait vraiment mis à terre mais comment Dieu l'a glorieusement relevé. Donc on écoutera tout ça, mais avant toute chose on va commencer avec toi Jonathan dans la pensée du jour.
Alors j'aimerais vous dire aujourd'hui, il manque encore un chapitre à ton histoire. En d'autres termes, l'histoire n'est pas finie. Je ne veux pas me placer dans un donneur de leçons ce matin, mais plutôt quelque part, avec empathie, se mettre à la place de ceux qui passent par des moments difficiles. Et on va dire, oui, mais il y en a qui se plaignent un peu trop. Ben, vous savez, dans la Bible, il y en a un, il s'est tellement plaint qu'on a appelé son livre « Les Lamentations ». Les Lamentations de Jérémie, et on a même appelé aussi, son nom est devenu tellement célèbre, puisqu'on dit à quelqu'un « Arrête tes jérémiades ». Vous voyez, donc, et c'est un auteur biblique, hein, c'est un homme de Dieu et c'est un prophète. Dans le mode des lamentations, je pourrais citer par exemple Lamentations chapitre 3, verset 53, où le prophète sort, « Ils ont voulu mettre fin à ma vie dans une fosse, ils ont jeté des pierres sur moi », donc non seulement il est dans la fosse, mais en plus on lui rajoute des pierres dessus, « Les eaux ont inondé ma tête », je veux dire, il se disait dans une fosse là, puis en plus il y a l'eau qui monte maintenant, et puis il dit « Je disais, je suis perdu ». Et il y a des moments comme ça où on peut avoir l'impression que tout est fini, que tout est perdu, qu'il n'y a plus d'espoir, et que c'est fini, c'est la fin. Mais dans un vocabulaire chrétien, on ne peut pas parler de désespoir ou de perdition, puisque Jésus est le salut et puisqu'il est la source de notre espoir et de notre espérance. Donc, dans ce langage-là, il va falloir avoir une autre façon de penser. Ce n'est pas parce qu'on est dans une situation que ça va s'arrêter là. L'histoire n'est pas finie, il manque encore un chapitre à ton histoire. D'ailleurs, dans le livre de Jérémie, quelques versets plus loin, il va dire « J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse, tu as entendu ma voix. » Et il va dire « Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit « Ne crains pas ». Donc on voit que ça finit bien. Donc si on s'était arrêté juste à la partie des lamentations, on aurait pu dire c'est une histoire triste et puis ça finit mal. Mais non, l'histoire n'est pas finie, il y a une fin heureuse. Et dans toute analyse littéraire, alors pour ceux qui ont l'habitude d'écouter de l'opéra, je ne sais pas s'il y en a qui écoutent de l'opéra tous les matins, on sait que l'opéra traditionnel se fait en 5 actes, ou les grandes tragédies grecques, et il y a 5 moments dans une grande histoire. Il y a la situation initiale, il y a le nouement, c'est-à-dire quand ça se complique, et peut-être que vous êtes dans cette situation-là, tout devient compliqué. Il y a l'action transformatrice, le point pivot où tout change, et il y a le dénouement, la résolution, et enfin la situation finale. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes simplement à l'étape 3. Vous êtes dans le nouement, dans la complication où il y a un problème qui est là. Mais il va y avoir une action qui va venir tout changer et amener donc un dénouement, une résolution de votre problème. Alors, ne dit pas « je suis dans une situation, dans une impasse et c'est fini ». Non, ce n'est pas fini, il reste encore un chapitre à ton histoire. Et quelqu'un va dire « mais c'est quoi cette action transformatrice ?» Ben, j'aimerais pour aujourd'hui du moins le lire de cette façon-là, elle a déjà eu lieu. N'attends pas une action, cette action a déjà eu lieu, elle a eu lieu à la croix du calvaire. Amen. Jésus a déjà tout accompli.
Amen.
Donc l'action transformatrice a eu lieu pour que le dénouement prenne place et pour que la résolution de ton problème prenne place. Alors aujourd'hui, ne reste pas comme Jérémie au fond de ta fosse et de ton trou, il n'y est pas resté, si vous connaissez la fin du récit, il s'en sort. Eh bien, tourne simplement la page. Et pour dire, bon, je suis peut-être à l'étape 3, au chapitre 3, mais il y a un autre chapitre qui vient, un chapitre de dénouement et de résolution.
Amen, amen. J'aime le titre de ta pensée et le contenu, bien entendu. Ce chapitre qui n'est pas encore écrit, et puis c'est un chapitre qui est complètement invisible encore. On n'a aucune idée de ce qu'il va contenir. Mais il y a une chose dont on est sûr, c'est que c'est le chapitre parfois même le plus glorieux de notre vie. Mais en tout cas, c'est un chapitre très glorieux parce que c'est le moment, comme tu le disais, là, ce dénouement et puis cet acte final même qui est absolument grandiose en général parce que Dieu intervient miraculeusement de différentes façons. Il y a tellement de façons, mais on sait que ce chapitre sera glorieux, sera extraordinaire. On va regarder notre verset du jour, on va voir que Paul sait de quoi il parle également, hein. Il a peut-être pas été dans le fond du trou comme Jérémie, mais lui aussi, il a vécu des oppressions quand même assez grandes. Notre verset du jour qui est dans 2 Corinthiens 4 au verset 8 et 9. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéanti. Et Paul, quand il a dit ça, c'est qu'il était tellement, il se sentait pressé, il se sentait complètement écrasé, persécuté, etc. Mais il savait qu'il avait la victoire dans toutes ces choses. Il savait que quoi qu'il en soit, il était plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et c'est une assurance qu'on peut tous avoir, même si on le vit pas exactement aujourd'hui. Mais Jonathan, qu'est-ce qu'on fait quand tout va mal, quand justement on a l'impression d'être pressé, écrasé, désespéré, abandonné, abattu?
C'est ça. Quand, dans toutes les bonnes histoires, si vous aimez les histoires, dans toutes les histoires, des fois, vous lisez une histoire, vous anticipez la fin. Vous dites, ah, c'est clair que ça va se produire. Puis, il y a d'autres histoires, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Puis on est là, des fois, inquiet. On dit, bah, alors, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils ne vont pas s'en sortir? Bon,
moi, je vais à la fin, en général, pour me rassurer. Puis après, je regarde.
Ah oui, mais quand quelqu'un nous spoil la fin d'une histoire, des fois, on n'aime pas ça. Mais concrètement, techniquement, l'apôtre Paul a déjà spoilé la fin de votre histoire.
C'est vrai.
Puisqu'il dit dans Romains 8, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs.
Amen.
Et donc, nous savons déjà la fin. Quand on lit l'Apocalypse, c'est un livre de bonnes histoires et de bonnes nouvelles, puisque ça nous dit à la fin, puisque c'est, on arrive à la fin, ça finit bien. Donc de dire, oui, il peut y avoir des moments de tension, difficiles, mais à la fin, c'est le triomphe, c'est la gloire, c'est les noces de l'agneau. Donc, quand on est dans cette situation difficile, il faut se rappeler que à la fin, ça finit bien. Alors, on ne connaît pas le chemin, on ne sait pas comment on va arriver à ce dénouement ou comment on va arriver à cette situation finale où tout est bien, qui finit bien, mais on ne sait pas comment, mais on sait qu'on va y arriver. Et c'est ça qui est important, c'est que quand on est dans une situation difficile, il ne faut pas se dire « je suis dans une impasse et c'est fini ». Non, il y a un espoir, il y a une solution, il y a un remède, même si on ne sait pas combien de temps ça va prendre.
Donc, on peut déjà se réjouir finalement de cette victoire, même si on ne sait pas encore comment elle va arriver.
Oui, parce qu'on connaît déjà la fin. Maintenant, il faut y croire. Il faut y croire dans cette fin-là. Donc, alors, c'est sûr que ce qui est délicat, c'est le temps. Et le temps, c'est l'épreuve de notre foi. Mais le temps peut être long. Des fois, nous, on lit les Actes des Apôtres, on lit l'apôtre Paul, puis on a juste un verset. Mais sauf que pendant un verset, l'apôtre Paul est passé 2 ans en prison.
Effectivement.
D'accord. Et 2 ans, peut-être vous, si on vous met 2 ans en prison, vous allez trouver ça long.
Ouais.
Mais nous, on est passé du verset 28 au verset 29. Bon, c'est juste 2 ans.
Ouais.
Mais ça peut être long, deux ans.
C'est vrai.
Mais quand on a de l'espoir, eh bien, on va notre ami Joseph a passé du temps en prison aussi.
Ouais.
C'était long.
Ouais.
Mais ça a bien fini.
C'est ça, parce qu'il avait cette espérance.
Mmh. Mais ça fait pas très longtemps, j'avais raconté l'histoire de Maria Ether Woodworth. Mmh. Et puis, je sais pas s'il y en a qui ont écouté, mais
cette femme-là,
c'était la semaine dernière. Il y a une période de sa vie qu'elle a trouvée longue. Elle était fermière dans l'Ohio, enterrée dans une ferme avec un mari infidèle qui, en plus, faisait pas prospérer la ferme. Et puis, pour couronner le tout, elle a eu 6 enfants, dont 5 sont morts dans une épidémie. Et elle trouvait le temps long. Mm-hmm. Et on est exactement dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'était une femme de Dieu qui s'appuyait sur la parole de Dieu et que dans ces temps d'adversité, elle a toujours gardé l'espoir. En disant, il va y avoir un temps de victoire. Et le temps de victoire est arrivé, puisqu'après 40 ans, elle est vraiment devenue une femme de Dieu, utilisée puissamment par Dieu pour des choses glorieuses. Et là, je voudrais ajouter un point par rapport à ce qu'a dit Jonathan, c'est qu'on attend un dénouement et la victoire est acquise. Mais parfois, on imagine cette victoire d'une certaine manière.
C'est vrai.
Et elle peut venir d'une autre manière. Mm-hmm. Et pour Maria Ether, Dieu ne lui a pas rendu ses 5 enfants disparus et son mari est quand même resté infidèle. Mais par contre, Dieu s'est manifesté glorieusement au travers de sa vie et peut-être pas d'une manière qu'on aurait pu prévoir. Alors parfois, Dieu va nous surprendre et la victoire n'est pas là où on l'attend.
C'est vrai.
Mais elle va être là quand même.
Il y a une victoire.
Il y a une victoire.
Et comme dit le prophète Osée, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore.
Amen.
Quand vous êtes dans la nuit sombre, vous savez que le soleil va se lever. Alors peut-être que si vous êtes au pôle Nord, il faudra attendre 6 mois avant que le soleil se lève, mais il va se lever. Il va se lever.
Amen. Mais c'est vrai que c'est une certitude. Hein.
Comme Anne disait, la victoire vient pas tout le temps comme on le veut. Et quelquefois, on peut être au fond du trou, au fond du puits, au fond de la citerne, au fond de tout ce qu'on veut de notre vie, et on prend notre énergie pour imaginer notre victoire, pour fabriquer notre victoire. Mais la Bible nous dit d'où me viendra le secours, et le secours me vient de l'Éternel. Et c'est encore une fois notre travail, notre responsabilité, c'est de garder les yeux vers Dieu et de faire en sorte que notre communion et notre foi, notre confiance en lui grandissent et ne défaillent pas, plutôt que d'essayer nous-mêmes de créer une victoire, de créer un changement, de se créer une échelle, une corde. C'est d'où me viendra mon secours me viendra de l'Éternel. Peut-être que ce sera une corde, peut-être que ce sera quelqu'un, peut-être que ce sera un ange, peut-être que le puits va s'effondrer, enfin pas s'effondrer parce que je vais mourir dans le puits, mais
va s'effondrer vers l'extérieur.
Je vais te transporter, mais ça c'est vraiment c'est là dans la bonté de Dieu va s'exprimer dans toute sa souveraineté. Le secours me vient de l'Éternel. Comment je ne sais pas, mais je sais qu'il va venir me secourir.
Oui, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et dans des moments comme ça...
Tu veux nous donner juste la référence pour ceux qui sont à la maison?
Ouais, c'est le psaume 103.
Ouais.
C'est verset 1 et on peut aller jusqu'au verset 7.
Ça veut dire que tout le monde le sait. Hein.
Apparemment, mais moi je pense que les gens sont contents d'avoir la référence.
Oui, et c'est un passage très puissant que j'ai relu souvent dans ma vie, dans les moments où ça a été difficile. Tu dis non, c'est toi qui délivres ma vie, la vie de mes enfants, la vie de peu importe, de la fosse. C'est-à-dire, t'es rendu au plus profond, c'est toi qui le fais, Dieu, d'une façon ou d'une autre. Puis ça paraît trop beau pour être vrai, mais c'est la vérité.
Mm-hmm.
Et dans le milieu de cette épreuve-là, ben, mon âme bénit l'Éternel quand même. Pas pour ces choses mauvaises, mais parce que tu es bon. Tu es toujours bon et tu es là à mes côtés.
Mm.
Et moi, par rapport à Jérémie, il y a ce passage qui dit de lui... Les gens disent toutes sortes de mal de moi. Ils me ridiculisent, je paraphrase. Hein.
Oui.
Ils disent toutes sortes d'affaires de moi, mais en dedans de moi, je peux pas me taire parce qu'il y a un feu, comme un feu dévorant qui est là à l'intérieur de moi. Et le fait qu'il savait qu'il avait une destinée, il avait un appel de Dieu sur sa vie, qu'il avait un amour pour Dieu, toutes ces choses mauvaises qui étaient là faisaient que, à cause de l'appel de Dieu, à cause de ce feu à l'intérieur de lui qui était là, il ne se décourageait pas et il ne se taisait pas.
Mm-hmm.
C'était pas facile d'être Jérémie.
Non, ça c'est
c'était
sûr.
Pas agréable. Mais il dit, à cause de ce feu, wow, je continue quand même parce que c'est dévorant à l'intérieur de moi. Dieu, je t'aime tellement, je vais accomplir ce que tu m'appelles à faire.
Amen.
Ça, c'est
amen.
Une clé, hein.
Ça.
Et Jonathan, oui, pardon.
Tant qu'on va regarder en bas, on va être découragé. Mm-hmm. Et quand on va commencer à regarder en haut, on va être encouragé. Quand on lève les yeux vers les montagnes, on va être découragé. Mmh. Parce qu'on regarde les montagnes. Quand on regarde les montagnes, ce n'est pas pour regarder vers Dieu. Hein.
Mmh.
On regarde vers les montagnes pour voir s'il y a une armée qui viendrait à notre secours par la montagne qui est à l'horizon.
Oui.
Mais on ne regarde pas vers les montagnes. Le secours, il vient de Dieu. Il faut regarder un peu plus haut. Mmh. Et tant qu'on va compter sur les hommes et sur une résolution naturelle, ben on va, ça va pas être encourageant. Mm-hmm. Mais à partir du moment où on regarde vers l'extraordinaire, vers le Dieu du miracle et de l'impossible, mm-hmm. eh bien là, on va être fortifié et ouais. le secours, il vient de là. Donc, quand on est dans sa fosse, quand on est dans un moment difficile, il faut prendre conscience qu'on ne va pas s'en sortir parce qu'on va faire un effort, parce que quelqu'un va intervenir. Mm-hmm. C'est Dieu qui intervient.
Oui.
Et même si ça se fait d'une manière naturelle.
Oui.
On parlait de la fosse où il y a de l'eau, qu'elle se détruise. Puis quand tu disais ça, je disais, mais peut-être que l'eau va monter. Il dit, mais si l'eau monte, il va se noyer. Non, mais au contraire, s'il y a beaucoup d'eau, du coup, ça peut le sortir. Donc, en augmentant le problème, ça peut le régler. dans ce cas-là seulement.
mais c'est vrai, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, il fallait que je touche le fond pour me donner un coup de pied, là, comme dans la piscine, pour remonter. Il y en a qui disent ça, que tant que je n'avais pas touché le fond, je n'avais pas la capacité de remonter.
Et ce qui est important, c'est de rendre gloire à Dieu. Mm-hmm. Parce que même s'il y a quelqu'un, un humain, un vrai, pas un ange, mais un humain qui vient et qui vous donne quelque chose, il ne faut pas dire c'est mon voisin qui m'a secouru. Il ne faut pas dire c'est ma tante, c'est mon grand-père. Non, c'est Dieu qui vous a secouru au travers de cette personne. Parce que sinon, vous regardez vers les choses naturelles. Ouais. Si vous mettez votre espoir en Dieu, quand la situation est réglée, rendez gloire à Dieu en disant « Dieu m'a secouru », même si c'est passé par l'intermédiaire de quelqu'un ou pas.
Mmh. Et puis c'est un piège de tomber dans l'amertume, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même si ce n'est pas Dieu qui a provoqué ça, mais en tout cas, dans notre épreuve, il va nous fortifier, il va nous rendre persévérants, il va nous endurcir et il va aussi tester notre amour pour lui. Donc, en fin de compte, on sera de toute façon gagnant, parce que Dieu va être avec nous et il va nous avoir rendu beaucoup plus forts.
Amen, amen.
Et je peux juste te dire ça. Oui. Quand on ne va pas bien, quand on vit des situations difficiles, on n'a quelquefois pas envie de lire notre Bible. C'est un défi, c'est difficile, c'est la dernière chose qu'on a envie de faire. Mais comme Frank disait, il lisait le psaume 103 pour s'encourager. Mmh. Et la parole de Dieu vraiment nous fortifie. Ça nous donne une provision. Et j'ai entendu plusieurs fois des témoignages de gens, une seule parole les a relevés. Ouais. Un homme de Dieu qui était dans une dépression profonde, vraiment profonde, ne plus pouvoir se lever, ne plus pouvoir rien faire. Une parole, un psaume, l'a complètement relevé. Du jour au lendemain, c'était fini. Et il y a plusieurs personnes qui ont vécu ce genre de choses parce que la parole est vivante.
Oh, amen. Amen. C'est ça, c'est la promesse d'Habacuc. Cette parole est certaine, elle s'accomplira.
Et puis pour finir, juste dire qu'il ne faut jamais rendre Dieu responsable et ne jamais l'accabler de reproches.
Il est le secours.
Il est le secours. Il n'est pas celui qui nous tape sur la tête. Il est notre secours, la main qui est tendue.
Amen. Il est comme Joseph l'a dit, celui qui transforme le mal en bien.
Exactement.
Et je vous laisse maintenant regarder le témoignage de Éric Dufour, qui lui est passé par dépression, maladie, dans un pays dans lequel il venait tout juste d'arriver en mission. Vous allez découvrir tout ça et vous allez voir surtout comment Dieu l'a relevé dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Éric Dufour. Bonjour.
Bonjour.
Tu vas bien ?
Ça va très bien, merci.
Merci à toi d'être avec nous pour cette rubrique aujourd'hui, où tu vas nous partager une partie quand même intime de ta vie.
Assez intime, oui.
Tu vas nous raconter une période très difficile, peut-être même la plus difficile de ta vie, ça c'est toi qui pourras le dire, où malheureusement tu as été vraiment mis à terre par une dépression, une maladie, deux maladies. Et une période très très difficile, mais on casse tout de suite le suspense, le Seigneur t'a relevé.
Oui, c'est
ça. Tu vas nous raconter justement cette histoire-là, et tu me disais hors antenne que tu voulais aussi briser un tabou en parlant de ça.
C'est ça. Je suis pasteur donc depuis 28 ans. Mm-hmm. Et c'est vrai que les pasteurs vivent dans un espèce de monde où il faudrait qu'ils soient parfaits constamment, qu'il ne leur arrive rien ou tout du moins qu'ils fassent comme. Et le tabou que je voudrais briser, c'est le fait qu'on peut être pasteur et vivre une dépression et vivre des moments vraiment difficiles. Et l'histoire récente a montré aux États-Unis plusieurs pasteurs qui se sont suicidés. C'est une tragédie.
Oui.
Et parce qu'ils étaient en dépression et ne sont pas parvenus à trouver l'aide dont ils avaient besoin et remonter la pente. Et en fait, c'est pour ça que je pense que c'est important de pouvoir être vulnérable et puis partager mon témoignage d'avoir vécu une dépression, d'avoir vécu des maladies, d'avoir vraiment passé sans aucun doute une des périodes les plus sombres de ma vie.
Mm-hmm.
Et puis d'expliquer aussi comment Dieu m'a relevé.
Mm. Exactement. Parce que toi, tu sais, tu étais pasteur en France, tu étais épanoui dans ton ministère, dans deux églises différentes même. Donc, tu avais vraiment de multiples casquettes, tu étais très actif. Et le Seigneur vous a envoyé ton épouse, vos cinq enfants et toi en Asie, pour servir le Seigneur comme missionnaire. Oui. Et puis, c'est là que ça a dégringolé finalement.
Absolument. Donc, comme tu le disais, on est pasteur de deux églises, ça voulait dire avoir peut-être 5 prédications par semaine. Les gens me demandaient toujours ce que je pensais de telle ou telle chose dans leur vie. Donc, je ne pense pas avoir abusé de cette relation, mais vraiment, j'aimais les aider et je vivais grâce à leur amour aussi. Et j'aimais beaucoup cela. Les choses progressaient bien jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle et on veut obéir à Dieu. Donc, ça prend un petit peu, à peu près une année, mais Rachel, nos 5 garçons et moi, partons en Asie du Sud-Est sur un appel de Dieu très clair. On est absolument sûr que on fait la bonne chose, on obéit à Dieu. Et puis on arrive dans ce pays et je savais bien intellectuellement que le choc serait grand par rapport à l'activité que j'avais en France, mais je ne m'attendais pas à l'ampleur de ce que ça allait représenter. Et donc on arrive dans un pays où je me retrouve à avoir à apprendre la langue locale plus l'anglais. Mm-hmm. Je ne peux pas m'exprimer aussi bien qu'un enfant de 2 ans le ferait. Donc c'est déjà un gros challenge en soi, mais je me disais, bon, ça va aller. Mm-hmm. Mais le problème, c'est qu'en fait, je me retrouve dans une grande solitude par rapport au ministère. Je n'ai plus personne. C'est un pays ou un régime qui n'autorise pas la vie chrétienne libre. Donc, je me retrouve sans avoir vraiment des gens à aider, au-delà de ma famille proche, et je faisais mon maximum pour cela. Mm-hmm. Et grandit en moi un sentiment d'être inutile.
Oui.
Alors que je sais que je sers Dieu, je sais que j'ai obéi à Dieu en venant dans ce pays, mais il n'y a plus toutes ces personnes qui me posent des questions, il n'y a plus toutes ces réunions à tenir, il n'y a plus cette vie de pasteur que j'avais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mon identité, elle est en Jésus-Christ, elle était d'être un pasteur.
Ok.
Et en fait, je ne savais absolument pas qui j'étais sans être un pasteur, qui j'étais en Jésus-Christ. Mon intelligence le savait, j'aurais pu même enseigner dessus, mais dans mes tripes, si je peux dire ça comme ça, je le vivais très très mal. Et c'est développé en moi un immense sentiment d'inutilité. Et alors, la dichotomie, le problème en moi, c'était le suivant. Je savais que j'obéissais à Dieu. Mm-hmm. Je savais que j'étais à l'endroit où il voulait que je sois. Donc, il n'y avait pas de doute en moi. Et en même temps, grandissait de plus en plus fort le sentiment d'être inutile, de perdre mon temps, de ne rien faire pour le royaume de Dieu, et d'avoir peur d'être jugé par Dieu comme ayant complètement loupé le coche et avoir passé ma vie. Alors, des paraboles comme celui qui a un talent et qui l'enterre et qui, je lui dis, ça y est, j'aurai un jugement sur moi.
Ah.
C'était une pensée plus émotionnelle, mm-hmm. mais qui était très forte. Et j'arrivais plus à la raisonner.
Mmh. Jusqu'au moment où tu commences même à être en colère contre Dieu.
Oui.
Parce que c'est lui qui t'a fait venir ici. Et finalement, tu te dis, il m'a mis dans une prison.
Ah, c'est exactement le mot que tu utilises. Donc alors, en tant que chrétien, pasteur, missionnaire maintenant, on se dit, mais c'est pas possible. Mmh. Ces gens-là, ils peuvent pas avoir de problème. Eh ben, si. On peut en avoir. En plus, on n'est plus du tout dans notre contexte d'évolution, dans notre culture.
Mmh.
Et exactement, je me suis senti, Seigneur, tu m'as trompé. Seigneur, tu m'as menti. Alors, sont des mots très forts. Hein.
Oui.
Mon intelligence sait très bien que Dieu n'est pas tenté par le mal, qu'il est amour, qu'il veut le meilleur pour moi. J'avais aucun doute là-dessus. Mais encore une fois, mes tripes me disaient, mais pourquoi tu m'as emmené là? Je sais que si je quitte le pays où je suis, je vais te désobéir. Donc, je ne peux pas le quitter. Donc, vraiment, je suis dans une prison et je ne contrôle plus rien. Et j'aime pas ce qui se passe parce que je me sens complètement inutile. Et pour un jeune homme, j'avais du succès, entre guillemets. Mm-hmm. Vraiment, j'aimais ce que je faisais. Je voyais des perspectives d'avenir, j'avais envie de développer des tas de choses, plein de projets. Et d'un seul coup, je me retrouve au point zéro, plus rien, plus de projets, plus de ministère comme je l'entendais, un sentiment d'inutilité écrasant et coincé par Dieu dans un endroit où si j'en sors, je sais que je sors du plan de Dieu.
Hmm. C'est dur ça.
C'est terrible.
L'impression d'être coincé dans quelque chose dans lequel t'es malheureux.
Oui.
Et t'es pas épanoui. Et puis même, au bout d'un moment, t'as l'impression que ça va te tuer petit à petit, quoi.
Exactement ça. Mm-hmm. Donc, ça va me tuer. Et surtout, j'ai pas de solution, quoi.
Mm-hmm.
Je n'ai pas de solution et je me sentais déchiré à l'intérieur. Et ma théologie de l'époque, ma relation avec Dieu à l'époque, ne m'autorisait pas à confronter la réalité que j'étais en colère, en fait, contre Dieu.
Mm-hmm.
Je me disais, je ne peux pas avoir la foi, être en colère contre Dieu, ce n'est pas possible. Et a commencé de s'ouvrir comme un puits en moi, comme une abîme, dans laquelle, sans m'en rendre compte au début, mais je suis tombé. Et c'est là qu'il faut mettre le mot, je suis tombée en dépression. Mmh. Alors au début, comment ça s'est manifesté? Ben, j'ai perdu de la motivation à tout. J'avais plus goût à rien. J'étais comme débranché de moi, débranché de mon énergie vitale, débranché de mon envie de vivre et de faire quelque chose. Et je pouvais passer des heures à être les yeux dans le vide et pas savoir ce que j'allais faire de ma peau et de ma vie. Mmh. Alors, bien entendu, je continuais de vivre, de m'occuper de mes enfants, de mon couple.
Oui, parce que t'as 5 garçons quand même, oui, qui sont là et qui ont quand même besoin de toi d'une certaine façon.
Absolument. Mais je sombrais à l'intérieur. Mmh. Évidemment, je donnais le change encore, mais je devenais comme une coquille vide. Mmh. C'est-à-dire que la coquille extérieure se voyait, mais à l'intérieur, j'étais plus là. Et pas de solution. Et cette dépression a commencé à s'installer. C'est un trou qui est devenu de plus en plus grand. Mmh. Et le plancher s'enlevait de sous mes pieds en quelque sorte, quoi.
Exactement. Et puis, avant de partir, tu me disais que t'avais eu, le diable t'avait vraiment attaqué.
Oui.
Et il t'avait dit qu'il allait te détruire, qu'il allait te faire mourir. Et finalement, c'était en train
de se passer. Il m'avait dit, tu perdras ton ministère, tu perdras la vie de tous ceux que tu aimes et tu y perdras la tienne. Mmh. Et en fait, il a eu presque raison sur tous les tableaux de ce qu'il m'avait menti, mm-hmm, de ce qu'il m'avait dit. Et à la fin du compte, comme tu l'as dit, il a eu tort sur tout.
Amen.
Mais vraiment, j'ai cru qu'il allait avoir raison pendant longtemps.
C'est ça, parce que ta santé a commencé à se dégrader. C'est aussi ça. Dans cette phase où tu es au fond du trou. En plus de ça, tu as des problèmes de santé qui se développent.
Voilà. Donc, la vie continue, mais mon corps commence à me lâcher. Mm. C'est plus seulement mon esprit, et à un moment donné, je sens que mon énergie vitale est en train de me quitter. Alors c'est bizarre, je peux pas l'expliquer. Donc je vois que quelque chose commence à dysfonctionner dans mon corps. Je vais voir un premier médecin qui me dit c'est pas grave, faut juste attendre. Et puis les jours qui suivaient, j'ai senti ma vie s'en aller. Hmm. Et donc je dis à Rachel, mon épouse, je sens que ça va, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il faut que je parte dans le pays voisin, dans un hôpital vraiment qui est digne de ce nom.
Oui.
Et je pars en urgence. Je vais voir des spécialistes qui me font passer par toute une sorte d'examen. Et puis le chirurgien là-bas, qui était en train d'opérer, fait dire à son infirmière, ne le laissez pas partir. Ouf. Et l'infirmière me dit, il ne veut pas que vous rentriez chez vous.
C'est mauvais signe.
Là, je me suis dit, là, c'est pas bon. Mm-hmm. Et donc, il sort entre deux opérations. Il me dit, Monsieur Dufour, vous avez une tumeur, je vous opère demain matin.
Oh là là, cancer qui tombe.
Comme une nouvelle. Alors j'ai 37 ans, c'est un cancer de l'homme jeune. Et là, d'un seul coup, je me revois appeler ma femme, lui dire je dois être opérée demain matin, donc elle doit arriver en urgence, etc. Mmh. Mais je vois surtout l'image de mes 5 garçons qui ont le danger de pas avoir de papa. Ah. Et c'est difficile à porter, évidemment, en ce moment-là. Et puis. C'est un moment sombre, un moment sombre. On a la mauvaise nouvelle dont personne n'espère avoir ces mots quand on vous dit c'est un cancer, faut opérer en urgence demain matin.
Ah, c'est terrible. Et finalement, l'opération a lieu. Oui. Il y a des traitements, de la radiothérapie qui a lieu. Et finalement, tu t'en sors quand même bien, mais complètement vidé de toute énergie. Déjà que tu n'en avais plus beaucoup avant.
Voilà,
il ne reste plus rien, là.
Il ne reste plus rien. Mm-hmm. Heureusement, je sais que j'ai un bon pronostic de guérison. Mm-hmm. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Bien je sûr. Peux rester un papa pour mes garçons. Mm-hmm. Et je rentre dans le pays où on était établi. Et puis, je vais mieux physiquement. Mais mon dilemme avec Dieu, il n'est pas guéri. Pendant un moment, je me dis, OK, j'ai été blessé au champ d'honneur, j'ai une médaille sur la poitrine, maintenant je peux rentrer en France,
et oui.
Personne ne me fera de reproche, je peux redevenir le pasteur d'une église et je reprends mon cours et je ferme cette sombre période de ma vie. Mm-hmm. Et là, clairement, le Seigneur dans mon cœur me dit non. Mm-hmm. Me dit, tu ne peux pas faire ça parce que je ne veux pas que tu t'en ailles, tu restes là. Mm-hmm. Et là, ma crise revient spirituelle jusqu'à un moment où, et je me revois très clairement, j'étais dans notre chambre, seul, et je tempêtais contre Dieu, et j'étais un peu comme si je levais le poing contre lui, mais pourquoi tu me fais ça, Seigneur? Moi, je voulais juste te servir. Et à un moment donné, le Seigneur me dit, mais tu crois que je le vois pas, que tu es en colère contre moi? Et évidemment...
C'est sûr qu'il le savait.
Quand un de mes fils était fâché contre moi parce que je lui avais dit non, je voyais bien que c'était contre moi qu'il était en colère, ça ne m'empêchait pas de l'aimer. Mm-hmm. Et ça semble une évidence, mais ma théologie ne m'autorisait pas à aller là, on est de peur que quelque chose de pire ne m'arrive. Mm-hmm. Et là, la révélation, Dieu va me donner ce verset, que des paroles de Jésus à la croix, quand il dit, le seul endroit où il n'appelle pas Dieu son Père, mais il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et le Seigneur a twisté un petit peu le verset en disant « mon Dieu, tu m'as abandonné, pourquoi ?»
Oui.
Et c'était les mots que je prononçais tous les jours.
Mmh.
Et le Saint-Esprit me dit « Tu vois, Jésus n'a pas péché, il est ressuscité, mais quand il a vécu le drame de la croix, il a eu la liberté de le dire à son Père, à son Dieu. » Et puis, il m'a montré d'autres versets, des psaumes de David, des psaumes d'Asaph, le livre de Job, qui est devenu mon livre favori de la Bible, où en fait, on voit la détresse, oui, et des hommes authentiques qui vont dire à Dieu « Mais pourquoi ? Je ne comprends pas. » Et Dieu ne leur fait pas de reproche parce qu'il est leur ami.
Mmh.
Et ça a été le début de ma guérison.
Parce que finalement, tu acceptes d'évacuer toute cette frustration que tu avais en toi, puis tu sors de cette culpabilité, en fait.
Exactement.
Mmh.
Et je me rends compte que Dieu est de mon côté. Mmh. Il n'a jamais cessé d'être mon ami, mais il voulait juste me débarrasser d'une identité qui était fausse.
Mmh.
Et c'est là que j'ai appris ce que ça voulait dire d'être en Christ sans avoir besoin de rien faire.
Mmh.
Il m'aimait aussi faible que je pouvais être à ce moment-là. Et j'ai entendu, c'était à Montréal, le pasteur Tommy Barnett qui disait « On peut jouer avec l'idée d'abandonner, mais il faut pas abandonner. »
On ne franchit pas le cap.
On ne franchit pas le cap, mais par contre, on a le droit d'avoir cette pensée. Et ça a fini de me libérer.
Mmh.
Et là, la guérison vraiment a accéléré.
C'est merveilleux, et t'as vécu justement cette liberté, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que ton système immunitaire était tellement affaibli,
ouais,
que t'as attrapé une méningite qui a failli te tuer, en fait.
Voilà, ma vie était à nouveau, je pensais, oui, que j'étais sortie de ces problèmes, et puis à nouveau, j'attrape une méningite, ma femme me sauve la vie en me faisant une piqûre d'un antibiotique qui m'a permis d'aller jusqu'à l'hôpital pour être traité, et à nouveau, pendant deux bons mois, j'étais hors circuit. À nouveau, je pouvais plus rien faire, sentiment d'inutilité, ma femme qui devait tout faire à ma place.
Mmh.
Et donc pour moi, en tant qu'homme, une énorme frustration. Mais là, la différence, c'est que mon identité était plus challengée.
C'est ça.
Et en fait, c'était comme si c'était, bon, on va voir si t'as bien appris la leçon. Et plus de colère contre Dieu. J'étais fâché d'être à nouveau malade, c'est sûr.
Fâché contre la maladie, mais pas contre
Voilà,
Dieu.
Exactement, tu as raison. Fâché contre la maladie, mais... j'ai pu en récupérer, me relever beaucoup plus rapidement après. Ouais.
Et ça a été merveilleux parce qu'ensuite, tu as fait un service extraordinaire quand même dans le pays où vous étiez.
Oui, c'est ça.
Puis tu as vu que vraiment, c'était ta place finalement et que Dieu te voulait là. Mais ça a été une période quand même qui t'a enseigné énormément sur l'amour de Dieu et ton identité.
Oui, et aujourd'hui, je dirais sincèrement, je rends grâce à Dieu pour la dépression, le cancer, la méningite. Parce qu'elles ont, cette période a fait de moi qui je suis aujourd'hui, et ça a été là où le ministère dans lequel on est aujourd'hui a pris naissance. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls parmi les pasteurs, les missionnaires. On nous a dit des fois vous êtes des super-héros, ben on se sentait pas du tout des super-héros, je peux te le promettre. Simplement des hommes et des femmes tout à fait normaux, et on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à passer ces tragédies, ces moments difficiles, et on avait besoin d'aide, on n'en a pas trouvé. Ou très peu, on s'est dit, ben, il ne faut pas que ça arrive à d'autres.
Mm-hmm.
Et c'est là que notre ministère est né. On veut aider ceux qui traversent les mêmes choses qu'on a traversées nous-mêmes.
Et oui, parce que même si on sert Dieu, même si on est à temps plein dans le ministère, ben, on peut vivre des périodes creuses, des périodes difficiles.
Ah, complètement.
Et on a le droit aussi de les vivre. Ce n'est pas une honte, en fait.
Il n'y a pas de honte.
Mm-hmm.
Et moi, quand j'entends de jeunes pasteurs ou moins jeunes qui se suicident, ou bien qui abandonnent le ministère parce qu'ils n'ont pas trouvé d'aide, ça me brise le cœur. Mais c'est pas ce que Dieu voulait. C'est pas normal que leur service s'arrête. L'ennemi a gagné. Et on veut éviter ces tragédies familiales. On veut éviter aussi cette perte d'appel pour le royaume de Dieu. Et ça suffit. Il faut briser le tabou. Il faut briser le mur du silence. Les pasteurs, leurs épouses, sont des hommes et des femmes comme les autres, qui ont besoin d'avoir des endroits où ils peuvent trouver de l'aide, sans être jugés, sans être critiqués, sans perdre leur ministère, simplement en étant aidés. On marche à leur côté, et puis si on ne peut pas porter leur appel, on peut les porter pendant un temps, les aider à ce qu'ils terminent leur service dans la victoire.
Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur Eric,
merci
d'être venu
toi,
nous partager cette histoire qui était quand même très intime, mais merci de t'être ouvert.
Ben, merci à toi.
Et voilà, comme vous l'avez vu dans ce témoignage, Dieu a toutes sortes de façons de nous relever. Et l'important, comme on l'a dit, c'est vraiment que toute la gloire lui revienne. Et puis c'est beau de voir ce que Dieu a fait dans la vie d'Éric Dufour.
Mmh.
Et on voit qu'il y a eu vraiment, la maladie a été dans la durée. Ça a pris du temps.
Ouais.
C'est long, c'est cette attente. Et puis on se pose plein de questions, comme on le disait en début d'émission. Hein, on s'imagine des fins qui, ou alors qu'en fait on ignore leur contenu et tout ça, mais vraiment il y a cette nécessité de de se fortifier dans ces moments-là et puis de garder l'espoir, comme on le disait. Et nos amis qui nous regardent à la maison aujourd'hui, vous êtes peut-être reconnus dans le témoignage d'Eric, où vous dites bon bah hey, ça parle de moi tout ça. Mais on va vous encourager, on va vous fortifier et puis dans quelques minutes on va prier pour vous aussi. Je voulais que vous le sachiez. On va pas terminer l'émission sans avoir prié pour vous parce que vous avez vraiment besoin d'être encouragé.
Ouais. Ouais, le plus difficile, c'est quand on est au milieu de la tempête, ben on voit que la tempête.
Ouais.
On est en plein milieu d'une tempête, ça souffle, il y a du vent, il y a de la bourrasque, et puis on voit pas l'issue. Mm-hmm. Ou alors, quand on a l'expression en français, on est dans le tunnel et on voit pas
le bout du tunnel.
Parce qu'on est en plein milieu du tunnel. Mais il y a de la lumière au bout du tunnel.
Ouais.
Et c'est ça qui est important aujourd'hui, de prendre conscience, c'est que le tunnel, la tempête, la situation dans laquelle vous êtes, c'est pas une fin, c'est pas fini, il y a quelque chose après. Alors c'est difficile quand on est abattu, quand on est malmené par toutes les difficultés de la vie, ben de voir cela, mais c'est la parole qu'on aimerait vous donner aujourd'hui, vous encourager, dire il y a quelque chose, c'est pas fini, tiens bon, prends courage. Un peu comme on a dit à Bartimée un jour, prends courage, il t'appelle. Prends courage, il y a quelque chose,
ouais.
C'est pas fini, ton histoire n'est pas finie là.
Oui.
Alors maintenant, l'histoire de Éric Dufour, quelqu'un va dire que je m'y retrouve, quelqu'un va dire ma situation, c'est pas la même, mais...
Peu importe.
Puis on n'a pas tous les mêmes situations, et mm-hmm. votre situation, elle vous est propre, il n'y a que vous qui vivez ça. Mm-hmm. Mais le modèle est toujours là, le même. Mm-hmm. Le modèle est le même. Jésus est l'espoir, la solution dans votre situation.
Amen. Ouais.
Ça me rappelle la fameuse prédication de Oral Roberts au milieu du feu. Le quatrième homme.
Alléluia.
Le quatrième homme. Avoir ce rêve. Ça, c'est tellement puissant. Ah ouais, j'ai pleuré quand je l'ai écouté la première fois chez moi. Hein. C'est tellement fort.
L'émission Héros de la foi.
Le quatrième homme de Oral Roberts au milieu du feu. Le quatrième homme est là et c'est Jésus. Mmh. Vraiment, comme tu as dit, Jonathan, c'est la vérité, c'est ça. Je veux encourager tout le monde, refusez la peur, refusez la crainte. Dieu est à vos côtés. La foi, vraiment, c'est, on va refuser la peur et on fait entièrement confiance à Dieu, peu importe ce qui se passe autour de nous. Refuser cette peur parce que vraiment, c'est ça qui est le pire quand tu vis une situation. J'ai déjà vécu des situations, tout le monde en a vécu. Quand la peur va essayer de t'assaillir, va essayer d'être là, la peur de ce qui va arriver... Non, ce qui va arriver, c'est Dieu va intervenir. La parole me le dit. Et ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir. Et c'est pas facile, mais c'est la seule qu'on doit avoir quand même.
Il y a vraiment une différence à faire entre le diagnostic et le pronostic. Mm. Parce que peut-être on a eu un diagnostic, mais le pronostic, on le refuse.
Amen.
Le diagnostic, c'est un fait. Le pronostic, c'est juste des paroles d'hommes. Et nous, on croit à la parole de Dieu.
Amen, amen. Jonathan, si tu veux bien prier pour nos téléspectateurs qui nous écoutent, qui se sentent vraiment... dans le puits, au fond du puits.
C'est ça. Et quand Jérémie était au fond du puits, ce que Dieu lui a dit, les premiers mots, c'est « ne crains pas ». Et c'est vraiment notre prière pour vous aujourd'hui.
Amen.
Seigneur, nous sommes ensemble unis et tous ceux qui écoutent cette émission s'unissent avec moi pour prier pour celui qui est dans un moment difficile, qui est comme dans une fosse, qui se sent malmené par toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes, et on sait que le diable est celui qui veut nous garder à terre. Mais Seigneur, nous croyons dans ta parole, elle est la vérité. Nous croyons que tu as des projets qui sont bons pour chacun d'entre nous. Nous croyons que tout est accompli à la croix, et que dans tes meurtrissures, nous sommes guéris, et que dans ce que tu as accompli à la croix, il y a le remède, la solution, la victoire, la délivrance pour chacun. Seigneur, je prie que tu puisses venir par ton esprit maintenant amener de la paix dans le cœur de chacun, qu'il puisse entendre ta voix dire « ne crains pas ». Et quand bien même il passerait par la vallée de l'ombre de la mort, il puisse dire « je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Seigneur, je prie pour une conviction, que ta parole puisse être la base de cette conviction, prie pour une parole qui encourage, qui renouvelle, qui fortifie, et qui amène à cette résolution, et que dans quelques semaines, dans quelques mois, ou peut-être quelques années, puisse regarder en arrière et dire combien Dieu a été bon pour moi. Seigneur, merci d'encourager, de fortifier celui qui en a besoin aujourd'hui. Tu connais chacun qui nous écoute, et nous croyons que tu entends notre prière. Amen.
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 Amen. Amen. On se réjouit et on rend gloire à Dieu de ce qu'il est en train de faire dans votre vie, qu'il va vous relever surnaturellement, il va vous fortifier, il va guérir votre corps, il va vous sortir de cette épreuve dans laquelle vous êtes, quelle qu'elle soit. Et puis, on se réjouit parce que vous allez avoir un témoignage. Et il y a beaucoup de gens qu'on reçoit sur le plateau de Bonjour chez vous, particulièrement à la rubrique C'est mon histoire, qui viennent nous raconter une histoire de leur vie qui est devenue presque l'histoire de leur vie, l'événement majeur de leur vie. Parce que cette épreuve par laquelle cette épreuve qu'ils ont dû traverser leur a activé une foi extraordinaire dans la victoire qu'ils ont reçue. Ils ont vu comment Dieu les aimait, comment Dieu était intervenu, et ça a fortifié leur foi. Et c'est devenu comme le socle de leur vie chrétienne. Et on croit vraiment que ça va être votre cas, que cette épreuve que vous êtes en train de traverser aujourd'hui est pour la gloire de Dieu, parce que Dieu va se glorifier dans cette épreuve. Il va vous relever et vous allez plus être la même personne. Et vous aurez un témoignage extraordinaire que vous allez transporter partout avec vous pour édifier et encourager tous ceux qui vous entourent. On se réjouit d'avance. Annabelle veut dire quelque chose.
Le mot de la fin.
C'était ça ton oui, bras qui a gesticulé tout à l'heure.
Je crois qu'il y a une personne qui nous regarde et qui a entendu cette émission, qui a tout cru, mais qui pense qu'elle est trop insignifiante pour que Dieu puisse intervenir. Mmh. Et j'aimerais dire que tu n'es pas insignifiante pour Dieu. Dieu voit ta situation, Dieu veut t'aider parce que tu as de la valeur pour lui. Et ose croire en lui, ose croire que tu es assez importante, que tu es une personne assez importante pour que Dieu vienne à ton secours. Voilà.
Amen, ça valait la peine. Amen, amen. Recevez cette parole si elle est pour vous. Et je vous souhaite un très, très bon week-end. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Toujours plus belles, toujours plus extraordinaires, toujours plus édifiantes et encourageantes. On vous aime, que Dieu vous bénisse. Passez un excellent culte dimanche. À la semaine prochaine et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.